nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Vous attachez à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission Focus, je vous propose de pénétrer dans les serres du Jardin des Plantes qui ont rouvert leurs portes le 2 juin 2010. Quatre serres pour être exactes, la serre des forêts tropicales humides, celle des déserts et des milieux arides, la serre de Nouvelle-Calédonie et celle de l'histoire des plantes. En attendant de vous rendre dans ces écrins de verdure entièrement rénovés et réaménagés, nous vous proposons de vous intéresser à l'histoire de ces serres. À quand remonte la construction des premières orangeries du muséum? Quelles furent les plantes exposées et quelles furent les technologies de l'époque employées pour les conserver à l'abri du froid? Et comment ces serres également ont-elles évolué jusqu'à aujourd'hui? Autant de questions auxquelles Geneviève Béraud-Briden a accepté de répondre. Madame, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Vous êtes directrice du département des jardins botaniques et zoologiques au Muséum national d'histoire naturelle. Avant d'opérer un saut dans le temps qui va nous amener au XVIIe siècle, rappelons que les serres du muséum étaient fermées au public depuis 2004. Alors qu'est-ce qui explique cette fermeture aussi longue? Est-ce que les travaux de réaménagement furent lourds à mettre en œuvre?
Ah, mais vous savez, les serres de cette importance-là, c'est un chantier extrêmement complexe. En plus, ce sont des bâtiments classés. Donc ça a suscité une grande attention et la recherche aussi d'entreprises spécialisées, d'artisans chevronnés pour accomplir cette grande œuvre, cette grande rénovation, parce qu'on peut dire qu'il n'y avait pas eu d'importante rénovation depuis, à part les serres courbes, depuis un demi-siècle.
Des serres qui sont classées, donc j'imagine que pour travailler à l'aménagement de serres classées, de monuments classés, c'est d'autant plus délicat.
C'est d'autant plus délicat, d'autant plus complexe et c'est d'autant plus long parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites à la main.
Alors nous y reviendrons à la fin de cette émission. Opérons, si vous le voulez bien, un saut dans le temps qui nous amène au XVIIe siècle, époque où l'on voit apparaître les orangeries et les premières serres de bois et de verre. Quel était le contexte des premières constructions des orangeries?
Dans un premier temps, les orangeries étaient faites pour abriter les végétaux qu'on sortait l'été. Il fallait les abriter des froidures de l'hiver. D'ailleurs, en fait, le mot « orangerie » signifiait un lieu où on serrait les plantes, d'où par la suite l'appellation des serres. Et petit à petit, le Jardin des Plantes a vu ses collections de plantes s'enrichir, puisque dans un premier temps, c'était un jardin royal de plantes médicinales. Et peu à peu, d'ailleurs, il s'est transformé plutôt en jardin royal de plantes qui venaient du monde entier. Et donc, il fallait abriter ces plantes, les acclimater, et en particulier celles qui venaient des régions tropicales. Et c'est ainsi qu'un plan de caféier avait été donné à Louis XIV par le bourgmestre d'Amsterdam. Et donc, ce caféier a généré la création d'une serre. C'était la première serre de France qui a été édifiée en 1714. Donc, une serre faite de bois et de verre qui était chauffé avec de la vapeur d'eau. La performance de cette serre a permis que ce plant de caféier devienne à son tour le père de caféier des Antilles et de Guyane. Et d'ailleurs, par la suite, un certain nombre de plantes à intérêt économique ont été aussi essaimées, telles que le vanillier à La Réunion ou à Tahiti, ou encore le bananier, nos colonies, en particulier la Guinée.
On comprend bien cette dimension économique. Est-ce que les serres, au tout début, donc 17e, 18e siècle, avaient uniquement une dimension économique, ou est-ce qu'il y avait aussi cette notion de connaissance, de faire connaître les plantes qui sont rares, qui sont exotiques?
Alors, en fait, le Jardin des Plantes au XVIIIe siècle, et en particulier avec Buffon, quand il a été nommé l'intendant, il a régné pendant 50 ans sur ce Jardin des Plantes, il avait tissé un grand réseau de correspondants. Donc, on était correspondant du roi et on venait justement rapporter du monde entier soit des plants ou soit des graines qu'on faisait donc cultiver dans ces serres. Et ces serres permettaient aussi une distribution avec d'autres jardins de botanique en Europe. Donc, dans un premier temps, c'était conserver toutes ces plantes extraordinaires qui venaient donc de contrées plus chaudes.
Donc on est dans une dimension de conservation. Est-ce qu'on est aussi dans une dimension de collection, de conserver tout ce qu'il est possible de conserver ?
Où il y avait, vous savez, le XVIIIe siècle, et en particulier la deuxième partie du XVIIIe siècle, qui était ce siècle des Lumières, c'était un siècle bouillonnant, c'était un siècle qui s'ouvre et se découvre. Et donc, c'était les grandes expositions maritimes. Et donc, on était très, très avide, très curieux d'aller chercher ces plantes dans le monde entier parce qu'on s'était rendu compte qu'elles avaient un intérêt pour le bien-être de l'homme et en particulier un intérêt économique. Et très, très vite, on en a compris l'importance dans l'agronomie.
Alors, au XIXe siècle, ça se poursuit. Hein. Les méthodes changent au niveau de l'élaboration des serres, où là, maintenant, on retrouve des structures métalliques. On est dans la dimension aussi de la révolution industrielle. Structures métalliques et verres, où là, les serres vont pouvoir rester un peu plus longtemps sur pied.
Alors là, effectivement, la grande révolution, on peut dire que ça a été le début du XXe siècle, parce que là, on a commencé à bien maîtriser le fer et le verre. Et puis en plus, c'était des structures certainement beaucoup plus adapté à l'isolation des plantes. Mais là, je veux dire, autant le bois n'était pas pérenne, puisque finalement, ces serres de bois et de verre n'ont pas eu une existence très, très longue. Il fallait toujours les reconstruire. Là, les serres ont changé de statut, sont devenues vraiment des grandes œuvres architecturales. Et les premières serres sont apparues donc avec les plus grandes du monde, avec Rode Fleury, qui a construit donc ces serres carrées, gigantesques, extraordinaires, et qui ont été admirées par le monde entier.
Ces serres, au XIXe siècle, est-ce que leur fonction va changer ? Puisque vous nous avez expliqué cette notion de conservation, est-ce que petit à petit, la mentalité va évoluer avec ces serres qui prennent de l'espace, avec justement aussi, j'imagine, un public qui va affluer ?
Alors, c'est vrai que le public était curieux de voir des plantes qu'il n'avait pas l'habitude de voir. Et puis, il y avait ce goût de l'exotisme. Et puis, il y avait ce goût du voyage qui était peut-être un voyage immobile, mais que les serres permettaient. Mais c'est vrai que petit à petit, les serres qui abritaient des plantes en pot, très vite, à la fin du 19e siècle, on a commencé à faire des plantations en pleine terre. Donc, c'est ce qu'on a appelé les jardins d'hiver. Et là, il faudra attendre quand même la fin, donc pour le jardin des plantes, vers 1888, que la première serre soit construite par Jules André. Et ensuite, celle qui, j'allais dire, aujourd'hui, on retrouve un peu ces éléments-là, c'est celle qui a été construite par Berger dans le style Art déco.
Petite question technique, comment ces serres étaient-elles chauffées, parce qu'on imagine bien que les serres, par le biais du soleil, avec le verre, vont donner de la chaleur à ces plantes. Mais est-ce qu'il y avait également un dispositif qui a évolué au fur et à mesure des siècles, au XVIIe, XVIIIe et XIXe et XXe siècle ?
Alors ces serres, déjà, vous savez, on choisissait l'emplacement. Elles n'étaient pas construites au hasard, puisque même la première serre qui fut construite, elle fut construite en bas d'une petite montagnette qu'on appelle le Grand Labyrinthe, de manière à justement être protégée des vents. Et l'orientation se faisait plein sud du côté, bien sûr, pour accueillir le maximum de lumière. Et c'est vrai que ces serres ont été chauffées et aujourd'hui, la manière dont on chauffe les serres, c'est à l'aide de la vapeur d'eau, une vapeur d'eau qui est produite tout à fait de manière, dans le contexte très développement durable, puisque c'est du chauffage urbain qui valorise justement l'incinération de déchets et qui produit cette vapeur d'eau.
C'est ainsi donc que nous avons avancé dans le temps. Nous allons donc pouvoir parler des serres aujourd'hui. Je le disais pour démarrer cette émission qu'il y avait quatre serres. Hein. La première, celle des forêts tropicales humides. La deuxième, celle des déserts et des milieux arides. Celle de Nouvelle-Calédonie et celle de l'histoire des plantes. J'imagine que le titre de ces serres a été décidé aujourd'hui en 2010, mais qu'il était différent il y a encore 5 ans.
Alors, totalement. Le contenu a complètement changé, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au départ, il n'y avait que 2 serres sur ces 4 que vous venez de nommer, qui étaient accessibles au public. Là, on a rendu justement 4 serres à la visite du public et en plus, on les a rendues accessibles à tout public, c'est-à-dire à tout handicap. Et ça, c'est une, j'allais dire, c'est quelque chose qui est peut-être un peu unique, puisqu'en général, les serres sont des bâtiments relativement anciens, souvent classés, et qui n'ont pas toujours offert toutes ces dispositions pour que l'accès soit rendu facile. Là, nous avons justement construit deux petits ascenseurs afin de pouvoir pénétrer dans ces serres et d'aller de l'une à l'autre sans difficulté. Et puis, bien entendu, on a fait des aménagements intérieurs tout à fait étudiés avec l'élargissement d'allées et propice à cette visite.
Venons-en au contenu. Pourquoi une serre consacrée à la Nouvelle-Calédonie ? Pourquoi la Nouvelle-Calédonie plus qu'un autre pays ?
Je crois que si on reprenait chacune des serres, le contenu a été pensé pour délivrer un message général qui est la diversité végétale. Cette diversité végétale s'inscrit tout à fait dans l'année de la biodiversité pour faire prendre conscience qu'elle est absolument utile, puisque tout commence par la diversité végétale, tout commence par les végétaux. D'ailleurs, ils sont tout à fait surprenants d'habileté et de conquête. Ce sont aussi les messages que nous voulons faire passer. Et puis surtout de dire que c'est parce qu'il y a une vie diverse que cette vie sera durablement adaptable. Alors, la Nouvelle-Calédonie, pour répondre à votre question, c'est que c'est une, ce qu'on appelle une île avec un taux d'endémisme très élevé. C'est-à-dire que vous trouvez des espèces que vous ne trouvez nulle part ailleurs.
Et comme Madagascar avez, également.
Comme Madagascar, et vous avez plus de 76% des espèces qui sont présentes là et que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Mais ce sont justement des îles qui sont souvent soumises à des pressions anthropiques très fortes, avec des interventions d'exploitation quelquefois qui sont insuffisamment raisonnées et qui entraînent la fragilité du milieu.
Donc ça, c'est pour la Nouvelle-Calédonie, avec un message d'alerte. Mais j'imagine que ce message d'alerte, il est le même pour les trois autres serres.
Oui, c'est vrai qu'on va montrer cette biodiversité. Bon, l'important du message, c'est de montrer la beauté de cette biodiversité, mais surtout l'utilité, de faire comprendre pourquoi il est important de conserver cette biodiversité et de montrer tous les biens fournis par cette biodiversité. Si on prend l'exemple de la première serre, qui est donc la serre des forêts tropicales, on va montrer qu'elle recueille de plantes très utiles pour l'homme, des plantes ressources qui lui permettent justement de se nourrir, de se vêtir, de se guérir. Et donc, en fait, de montrer que les plantes et les interactions qui s'opèrent avec ces plantes sont indispensables pour l'avenir de la vie, l'avenir de l'homme.
Mais alors, autant au début de l'émission, on parlait de cette envie de conserver un maximum et d'en montrer le plus possible. Là, dans la scénographie que vous allez proposer, au contraire, vous allez faire une sélection particulière. Justement, votre choix, c'est d'en montrer peut-être peu, en suggérant qu'il y a beaucoup de choses à préserver, j'imagine.
C'est vrai que l'état d'esprit a changé. On n'est pas là pour montrer des collections de plantes. On est là pour montrer certaines plantes qui ont été sélectionnées et chacune de ces plantes, finalement, a un message à délivrer et va exprimer pourquoi toutes ces plantes sont importantes, sont intéressantes. Ce sont des serres, si vous voulez, qui ont une large vocation pédagogique. Ce sont des serres de présentation. Les serres de collection, de référence scientifique. Nous avons ces serres-là qui se trouvent à Chèvreloup, qui est située à peu près à côté de Versailles. Tandis que là, on a fait tout pour rendre accessibles ces serres et de manière à ce que les messages soient diffusés auprès du public le plus large possible. Et avec une muséographie, je pense, assez innovante, pertinente et qui va faire part aussi des nouvelles avancées scientifiques.
Les serres ouvrent leurs portes le 2 juin officiellement au public. Quelle serait la phrase qui vous ferait le plus plaisir de la part d'un visiteur ?
Je pense que dans un premier temps, s'il pouvait d'abord être émerveillé en disant « mais c'est magnifique, on s'y sent bien, c'est extraordinaire ». Et puis, j'apprends des tas de choses. Je comprends que cette diversité est très importante. Je crois que là, j'ai enfin compris ce que ça voulait dire la biodiversité, parce qu'on parle beaucoup de biodiversité, mais c'est vrai que c'est un mot qui reste un peu abstrait. Là, concrètement, on va montrer tous ces aspects, ces différents aspects, et on va montrer aussi comment les plantes sont ingénieuses, comment elles ont réussi à coloniser des milieux extrêmes, et que la vie sur Terre, justement, ce sont elles les pionnières qui ont permis la vie de s'installer, qui ont permis à l'homme d'être là. Donc c'est à l'homme aussi de lui faire comprendre qu'il doit cohabiter avec ces êtres vivants autour de lui. Et donc, en fait, c'est ces messages-là qui nous paraissent les plus pertinents à faire passer.
Eh bien, écoutez, j'espère qu'il passera. Je rappelle donc que les serres rouvrent leurs portes officiellement le 2 juin 2010. Et puis, j'invite également les internautes auditeurs à aller faire un tour sur le site internet du Jardin des Plantes qui a ouvert parallèlement ses portes, si l'on peut dire, en parallèle avec la réouverture de ses serres. Merci Geneviève Béraud-Briden et puis je l'espère à bientôt pour avoir des nouvelles de ses serres. À bientôt, au revoir.
Merci.